is dan de brief de huitième jour, c'est un chiffre, le 8, c'est le chiffre messianique, et le huitième jour est toujours le jour de la messianité dans le calendrier juif, dans le fait du calendrier juif. Mais, comme vous le savez très certainement, les disciples de Jésus connaissaient ces thèmes et connaissaient aussi la force de ce chiffre 8, si bien que l'Église a organisé la semaine d'une manière différente de la semaine juive. La semaine juive ou la semaine biblique commence par le premier jour qui est dimanche, d'accord, et se termine par le septième jour qui est Shabbat. Or, que fait la chrétienté pour dire que Jésus, le Messie, est venu? Elle prend le premier jour et elle le met à la fin en disant, voilà, il y a un dépassement du septième jour qui est le huitième jour, qui est le dimanche. Donc on est effectivement en plein dans cette problématique de la messianité et je voulais signaler, je voulais faire cette petite remarque qui n'était pas dans la réflexion du rabbin qui a commis en tout cas cette réflexion. Oui, alors effectivement, hier, j'ai eu un débat avec l'archevêque de Lyon et primat de Gaulle, le cardinal Philippe Barbarin. Il vient de publier un livre de dialogue entre lui et le grand rabbin Bernheim. Et ce livre est assez intéressant et même très stimulant. Et il se trouve qu'il raconte un peu sa vie. Et il se trouve qu'il est né lui-même au Maroc, comme moi. Lui est né à Rabat, à 40 km au sud de là où je suis né. Et donc on a pu évoquer certains souvenirs, mais ça m'a permis de partir de cet élément biographique pour dire que lorsque je suis arrivé à Lyon pour m'inscrire à l'université, j'étais à milieu de penser qu'un jour je serais amené à débattre avec lui. Mais ça c'est l'histoire, la petite histoire et la grande histoire qui réserve souvent ou parfois des surprises. Et d'ailleurs, c'était cette même histoire qui m'avait fait quitter mon Maroc natal en me contraignant à l'exil. Alors, exil, me direz-vous, est quelque peu exagéré, puisque je me retrouvais sans doute sur une terre accueillante, dans un pays qui m'a fait bénéficier, sans compter des richesses intellectuelles de son université, et qui m'a ouvert les portes de son enseignement supérieur, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un exil avec les blessures du corps et de l'âme qu'il génère chez le déraciné, le sans famille et sans amis, semblable à un grain de sable par lequel un des maîtres du judaïsme espagnol définit l'étranger résident. Donc un exil qui ne pouvait pas ne pas éveiller dans ma conscience et dans ma mémoire le souvenir d'un autre exil, plus douloureux celui-là, qui eut lieu en des temps lointains, très précisément le 9 av, c'est un mois de notre calendrier liturgique, de l'année 70 de l'ère chrétienne, ou 68 selon le compute hébraïque, date funeste s'il en est, mais qui est gravée avec des lettres de feu et de sang dans notre calendrier liturgique, c'est la date de la destruction du premier et du second temple. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'exil n'est ni une conséquence de la faute, ni le châtiment consécutif à l'infidélité d'Israël. L'exil n'est pas non plus une errance, même si ce fut aussi notre lot d'être ballotté au gré des vents et des événements, soumis ici au bon vouloir des princes, là à l'arbitraire des tyrans. De même, l'exil est aux antipodes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esthétique du nomadisme qui est prôné par la postmodernité. La réalité de l'exil n'est donc pas post-biblique, ni châtiment, ni vocation, elle est antérieure à l'octroi du territoire, elle est à l'origine, elle constitue la matrice de la judéité qui remonte non seulement à Abraham, Genèse 12.1, mais aussi à la création. Car qu'est-ce que la création, si ce n'est une mise en exil de la créature? La créature ressent un mal-être, car elle se tient éloignée de la source de l'être, du Créateur. Et c'est pourquoi la condition exilique fait horreur à l'exilé, et ne saurait être l'éternel. On comprend dès lors que l'exil est toujours tendu, orienté vers le retour, vers l'espérance du retour, à condition de garder lors du retour la dimension existentielle qui est incarnée tout au long de cet exil. Quelle est cette dimension existentielle? Eh bien, c'est celle de l'étranger résident, ou mieux, de celui qui habite le lieu de manière étrange, sans s'enraciner à la manière des végétaux. De celui qui est d'ici, de ce monde, mais en même temps qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas d'ici. Donc l'exil a pour corollaire le retour, ou si vous voulez, l'envers de l'exil, c'est le retour, et partant, l'espérance de ce retour. C'est pourquoi l'hymne national d'Israël s'appelle Hatikva, l'espérance. Donc l'espérance de ce retour vers lequel il est comme aimanté. Et l'espérance non pas tant de la fin des temps, mais d'un temps de la fin, de ce qu'on appelle en hébreu une aharit hayamim, ou comme disait un de mes maîtres, de ceux qui se situent dans un après des jours. C'est dire que cette dialectique de l'exil et du retour implique une conception du temps. Une espérance, ou plus précisément une attente. Et c'est de cela que vous a parlé tout à l'heure Madame Ventre. Un avenir, une tension dans le temps qui le dilate, qui le tend et qui le conduit vers la rédemption. Donc dans cette perspective, notre manière de vivre ce temps est orientée par l'attente de la venue du Rédempteur ou de l'advenue du Messie. Mais cette attente, elle entre en collision avec l'affirmation chrétienne qui voit en Jésus le Messie déjà venu, même si cette affirmation est aussitôt tempérée par la notion de retour de Jésus, ou de retour du Christ, Christ qui n'est que la traduction grecque de Mashiach, de Messie, ou un, comme il a été dit tout à l'heure. Donc, quelle est la force réelle de cette orientation, de cette tension dans le temps, de cette attente ou de cette espérance? Eh bien, nous constatons, ou nous avons constaté, quand je dis nous, c'est-à-dire les penseurs juifs, les juifs eux-mêmes, ont constaté que la proclamation de l'avènement effectif du Christ Messie n'a pas été accompagnée des temps messianiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le mal, la souffrance, les guerres, l'oppression, les injustices demeurent. Donc, il y a une proclamation qui est le Christ est venu et le monde n'a pas changé. Donc, cette proclamation, est-ce qu'elle suppose un phénomène de spiritualisation qui est peut-être un phénomène dangereux? Est-ce que, pour employer un vocabulaire chrétien, est-ce que l'on est déjà dans le royaume et non plus au cœur des contingences historiques? Et puis que cache cette dissociation entre un Messie unique qui est déjà venu et des temps messianiques dès lors relégués on ne sait plus pour quel temps et pour quel lieu? Le juste, donc, résiste au déjà chrétien en lui opposant le pas encore. Et le pas encore de la rédemption, au regard d'une histoire qui peut se résumer au récit des folies et des crimes de l'humanité. Et c'est entre ce déjà et ce pas encore que se situe la rupture, ou le décalage, ou le débat, ou la discussion entre espérance juive et espérance chrétienne. Voilà donc ce que je voulais dire en introduction. Alors comment maintenant vais-je procéder pour la suite de mon exposé? Eh bien, dans une première partie, puisque la notion du temps est importante et vous avez eu un avant-goût dans ce qui a été dit tout à l'heure dans cette méditation sur la péricope hebdomadaire qui s'appelle Chemini, le huitième jour. La notion du temps est importante, donc on doit l'interroger. On doit l'interroger à travers la question: est-ce que c'est une espérance ou est-ce que c'est une attente? Ça sera seulement première partie, et dans une deuxième partie, je me demanderai si le christianisme n'est pas un messianisme prématuré. Mais là aussi, ce sera avec un point d'interrogation. Donc voilà, si vous voulez, mes deux parties. La première partie sera peut-être un peu difficile, mais on reviendra peut-être là-dessus, mais j'espère que je pourrai la rendre un peu moins complexe. Les visions eschatologiques des prophètes d'Israël surgissent sur le fond d'une série de catastrophes nationales. Isaïe prophétise sur l'horizon de la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens. Jérémie et Ézéchiel à partir de l'écroulement du royaume de Juda et de l'exil babylonien. Même l'eschatologie talmudique va répondre ou va tenter de répondre à la destruction du second temple par les Romains. Et la Kabbale de l'Ouria, celle qui a été rédigée après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et notamment ces notions d'exil de la présence divine qui accompagne Israël dans sa dispersion, avec son corollaire la rédemption, se présente, selon un grand professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem, comme une réponse religieuse à la catastrophe historique que constitua l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Toutefois, le messianisme ne naît pas d'une frustration historique. Il n'apparaît pas dans la conscience collective comme la réparation d'une perte, ou le dépassement d'un échec, ou la promesse utopique destinée à compenser le malheur actuel. La promesse messianique annonce une venue. Mais en même temps, elle défait par avance la figure de cette venue. Elle dit une certitude, c'est-à-dire nous sommes sûrs que le Messie va venir, mais s'élance elle-même depuis son imprévisibilité, on ne sait pas quand. Tel est son pacte avec le temps. Car dans la Bible hébraïque, eh bien le terme de Mashiach, de Messie, est de faible fréquence. 38 occurrences au total, dont 18 dans le seul livre de Samuel 1 et 2, et 10 dans les psaumes. La figure du Messie est très indéterminée et souvent même évanescente. Le mot désigne une cérémonie d'onction consacrant un roi qui règne selon la volonté de Dieu, comme par exemple en 2 Samuel 5, 17. Dès lors qu'il est loin, et quelles que soient ses défaillances, eh bien le roi sera dit Messie, ce qui parfois s'accompagne de l'attente d'une délivrance locale ou universelle. Mais cette qualification de Messie s'applique aussi bien au prophète Élie, comme dans Malachie au chapitre 3. On aurait donc à la fois une forte prégnance de l'espérance messianique qui est vivante, qui est concrète, et une curieuse fluidité, comme j'ai dit tout à l'heure, une évanescence quant à la personne du Messie. C'est pourquoi la promesse messianique annonce un accomplissement, mais elle est d'abord et avant tout aspiration à l'impossible. Le messianisme, c'est l'impossible. C'est pourquoi c'est une espérance. Et on sait très bien que l'espérer, par définition, n'est pas, puisque j'espère. Si j'estime raisonnablement certain qu'il sera, eh bien je n'espère plus. Je n'espère pas en effet lorsque j'attends le bus. Peut-être commençais-je à espérer sa venue si elle est rendue improbable par une cause contingente quelconque. J'espère alors qu'il viendra tout de même. C'est dire que l'espérer est hors du temps. Ou plus précisément, ce qui interrompt le temps, comme l'enseigne le Talmud, je cite, « Le Messie, fils de David, ne viendra qu'au moment où on aura désespéré de la rédemption. » Fin de citation. Bien, cette parole des sages témoigne de l'incommensurabilité absolue de l'espérance et de ses représentations. Le désespoir dont il est question ici est le passage mondain où se défait le contenu de l'espérance, où se distend ce désir de Messie. Parce que l'espérance, c'est, il convient de distinguer espérance et espoir. L'espoir, c'est le contenu de l'espérance. Et donc l'espérance, elle se démarque de l'espoir comme justement étant une attente, mais pas une attente confiante et raisonnablement optimiste d'une issue ou d'un résultat qu'on escompte heureux. Il ne faut pas comprendre ce dire talmudique concernant le désespoir comme étant un non-espoir, mais comme ce qui va au-delà de tous les faux espoirs. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce dire talmudique. Et en cela, il relève plutôt de ce que un philosophe juif allemand du début du siècle dernier, il est mort après la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Franz Rosenzweig, appelle l'entêtement juif. C'est-à-dire cette manière de ne jamais déprécier ce qui ne peut encore être atteint, comme en Jérémie 29, 11. Je cite, « Je sais les desseins que forme Dieu pour vous donner un avenir et une espérance. » Un avenir et une espérance. L'espérance messianique tiendrait plutôt dans une fidélité à l'avenir, c'est-à-dire à ce qui vient. Autant lui-même, jusque dans ses perpétuels changements, ses retournements imprévisibles et les déceptions qui semblent le réengloutir dans sa trame. Et sa fidélité, la fidélité à l'avenir, est forcément impatiente, puisque le temps est sommé d'accomplir et d'accomplir aujourd'hui ce que sa fécondité promet. Et Franz Rosenzweig voit là le trait le plus distinctif du messianisme juif. Je cite ce qu'il écrit. Ce qui fait leur messianisme, c'est-à-dire le messianisme des Juifs, ce n'est pas que les Juifs espèrent en la venue du Messie, c'est qu'ils s'entêtent à l'attendre. Voilà, c'est la récalcitrance des Juifs, l'attendre. Alors pourquoi attendre? Eh bien parce que le monde est inachevé, parce que le monde est à parfaire, parce que le monde est à transformer encore. C'est pourquoi l'attente implique un rapport au temps. Et dans le messianisme juif, le temps n'est pas, comme chez Aristote, le milieu de la dégradation, de la dégénérescence conduisant inexorablement à la mort. Le temps n'est pas perçu négativement comme la forme dégradée qui se recommence en des séquences semblables. Ce n'est pas le temps de l'éternel retour. Il n'est pas non plus un facteur d'érosion, de perturbation d'une harmonie. Le temps pour le juif, c'est la fécondité même. Le temps est engendrement, engendrement de nouveautés, d'imprévus, de rencontres, un temps de fruition, c'est-à-dire un temps qui porte des fruits et non pas qui dégrade. D'ailleurs, la sémantique hébraïque le signifie sans détour. Pour dire le mois en hébreu, on dit chodesh. Chodesh désigne le mois, mais fait signe vers un champ lexical dont la racine exprime tout ce qui est nouveau. Nouveauté portée justement par l'imprévisibilité du déroulement du temps, par l'avenir qui demeure dans son absolue inconnaissabilité. Mais l'avenir est vu de manière optimiste. Et il en va de même de la syntaxe biblique qui distingue en hébreu, entre l'accompli et l'inaccompli. Il n'y a pas en hébreu un présent, un passé et un futur. Il y a un passé, un accompli et un inaccompli. Un achevé et un inachevé. Et notamment avec quelque chose qui est très particulier à la grammaire hébraïque, avec un vav qu'on appelle conversif, et qui, selon la tradition juive, lorsqu'il transforme le futur en passé, annonce un malheur, et c'est normal, parce qu'on fige le temps, on reste attaché au passé, alors que lorsqu'il renverse le passé en futur, évoque un temps de joie, de bonheur, parce que justement, il maintient l'ouverture, il maintient l'imprévisibilité de l'avenir. C'est dire combien le futur, l'avenir, est absolument surprenant et inanticipable. Le temps où l'avenir, eh bien, c'est le surgissement d'une venue. Et bien entendu, celle-ci sera inattendue. Sa soudaineté sera absolue. Et c'est ce que le Talmud enseigne. Écoutez bien. Je cite, « Trois sont ceux qui surgissent, sans que l'on y prenne garde. Le Messie, une trouvaille et la piqûre d'un scorpion. » Fin de citation. Si le Talmud enseigne que le Messie arrive sans qu'on y prenne garde, à la façon d'un objet perdu qu'on retrouve, ou d'un scorpion qu'on découvre inopinément, c'est bien pour nous dire qu'il faut se laisser surprendre par les potentialités du temps, par l'inattendu, par l'imprévisible qu'il recèle. À moins, écrit un de mes maîtres, que le temps soit relation non pas avec ce qui arrive, mais avec ce qui ne peut arriver. Non pas parce que l'attente serait vaine, mais parce que l'attendu est trop grand pour l'attente. C'est-à-dire que dans le messianisme, notamment dans le messianisme juif, l'attendu c'est le Messie, et même plus, l'attendu c'est Dieu, et l'attendu est trop grand pour l'attendu. C'est pourquoi l'attente est interminable. Et c'est pourquoi l'attente doit être patiente. Patience et endurance, mais justement parce qu'elle est interminable, patience de la démesure. Parce que c'est une attente de Dieu. Et écoutez encore une fois le Talmud. Rabbi Shmuel Bar Nachmani a dit, au nom de Rabbi Yonatan, que se brise le souffle de ceux qui calculent la fin des temps. Lorsqu'arrive le jour déterminé par leur calcul et que le Messie n'est pas là, ils prétendent qu'il ne viendra pas. Attends-le au contraire, car il est dit, Habakkuk 2:3, s'il tarde à venir, attends-le, car il viendra sans tarder. Peut-être diras-tu, nous l'attendons encore, alors que lui, Dieu, ne l'attend pas. Mais le texte précise bien, pourtant, Dieu attend pour vous faire grâce, pourtant, il se lèvera pour vous prendre en compassion. Mais alors, puisque je l'attends et qu'il attend aussi, qui fait obstacle? La modalité de rigueur fait entrave. Et si la modalité de rigueur empêche la venue du Messie, pourquoi persistons-nous à l'attendre? Pour recevoir la récompense de notre attente. Ainsi qu'il est écrit, bienheureux ceux qui l'attendent. Fin de citation. Alors, deux remarques au sujet de ce texte qu'il faudrait méditer très, 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 très longuement. La première, celle de Rashi, qui attire notre attention sur le début du verset d'Isaïe, qui est interprété par le Talmud, Isaïe 30, 18. Pourtant, Dieu attend. Dieu lui-même attend. Et voilà le commentaire de Rashi. Dieu lui-même attend et désire que le Messie vienne. La La seconde remarque concerne le pourtant, le lachen, ou le malgré tout, ou le en dépit de tout. Une particule syntaxique par excellence messianique. Particule syntaxique ou adverbe de temps qui réfère à l'attente, à la surprise. Car, écrit Lévinas, ce qui n'est en aucune façon saisi, c'est l'avenir. L'extériorité de l'avenir est totalement différente de l'extériorité spatiale par le fait précisément que l'avenir est absolument surprenant. L'anticipation de l'avenir, la projection de l'avenir accréditée comme l'essentiel du temps par toutes les théories de Bergson jusqu'à Sartre, ne sont que le présent de l'avenir et non pas l'avenir authentique. L'avenir authentique, c'est ce qui n'est pas saisi. Ce, dit Lévinas, ce qui tombe sur nous et s'empare de nous. L'avenir, c'est l'autre. La relation avec l'avenir, c'est la relation même avec l'autre. Fin de citation, et avec ça, j'ai terminé ma première partie. J'en viens donc maintenant à ma seconde partie, le christianisme, un messianisme prématuré, point d'interrogation. Alors, ce rapport au temps, essentiellement à l'avenir, et que j'appelle attente, n'est pas un rapport de passivité, mais un rapport d'activité, et parfois d'activité fiévreuse. Ce qui ouvre la porte à quoi ? À l'impatience et à la précipitation. Puisqu'il s'agit d'un temps non encore advenu, grande est la tentation de céder à l'aboutissement. Et c'est pourquoi le messianisme, sous sa modalité juive, se présente comme l'histoire de ces échecs successifs ou des tentatives inabouties. Pourquoi ? Parce que le messianisme ne peut s'affirmer qu'en se réalisant. Mais paradoxe, aussitôt qu'il se réalise, il se nie. Surtout lorsqu'une personne prétend l'incarner. Le Messie n'est pas un homme, encore moins un Dieu, c'est un temps. Nous l'appelons en hébreu Yemot HaMashiach, les temps messianiques. On peut parler donc d'un messianisme juif comme d'un messianisme sans Messie. Au point que la focalisation sur la personne messianique et la tentation de la divination, de sa divinisation, apparaissent presque toujours comme le symptôme d'une crise aiguë et partant d'un discrédit. Ainsi, les Juifs ont refusé d'accorder une dimension messianique à Jésus. Mais pas seulement à Jésus. Bar Kokhba, le chef de la révolte contre Rome en 132, jusqu'à 135, a été désigné par un très grand maître du Talmud, Rabbi Akiva, comme Messie. Et il a même changé son nom, il l'a transformé en Bar Kokhba, fils de l'étoile, selon Nombre 24-17. Alors que la majorité des sages de son époque voyaient en lui le fils du mensonge ou de la déception, Bar Kokhba. Faisant preuve d'une ironie mordante contre celui qui l'a institué Messie, en disant, dans le Talmud, « Rakiva, Rakiva, des herbes folles pousseront sur tes joues avant que le fils de David ne vienne. » Donc ça veut dire que tu seras déjà enterré depuis longtemps avant que le Messie fils de David vienne. Donc, Jésus, Bar Kokhba, David Ar-Uveni, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Chabtaï Tzvi, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Jacob Frank, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, tout cela pour nous, n'étaient pas des messies alors qu'ils s'étaient déclarés messies et même plus près de nous. Nous avons tous entendu parler du dernier qui s'est déclaré messie et qui s'appelle le Rabbi de Lubavitch, et pour nous, ce n'est pas le messie. Et la liste n'est pas exhaustive. La tradition rabbinique pousse assez loin ce déni ou cette relativisation du messie au profit du messianisme en enseignant, en allant jusqu'à enseigner par la bouche d'un maître, d'un docteur du 4e siècle qui s'appelle Hillel, je cite, « Il n'y a plus de Messie pour Israël, ils l'ont déjà dévoré au temps d'Ézéchias. » Fin de citation. En même temps, elle déduit du messianisme qu'il vise presque nécessairement son au-delà, puisqu'il attend ceux dont l'avenue ruinerait le principe. Comme si le messianisme n'avait pas de but, mais seulement un au-delà, comme s'il requérait un perpétuel dépassement. Bien, cet éloge de la patience, rongé par l'impatience, est associé à la défense d'accélérer le temps de la fin, de faire preuve de précipitation. Cet éloge de la patience s'appuie sur un enseignement talmudique mettant en scène deux maîtres, Rabbi Zera et Rabbi Yehuda, deux sages de Babylone. Le premier, Rabbi Zera, évitait le second, Rabbi Yehuda, qui soutenait que quiconque quittait Babylone pour le pays d'Israël enfreint un commandement positif. Et Rabbi Yehuda étayait son dire en s'appuyant sur un verset du Cantique des Cantiques. Le suivant, il apparaît par trois fois, en 2-7, 3-5 et 8-4. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » La triple occurrence de ce verset est interprétée à la suite de cette discussion entre Rabbi Zera et Rabbi Yehuda comme un triple serment. Trois adjurations ainsi réparties, deux d'entre elles concernent Israël et la troisième les nations du monde. La première, qu'Israël ne monte pas en masse vers son pays. La seconde signifie aux enfants d'Israël de ne pas se révolter contre les nations du monde pour conquérir ce pays. Et la troisième recommande aux nations du monde de ne pas asservir Israël à l'excès. Voilà les trois serments. Autrement dit, Dieu conjurerait Israël de ne pas vouloir précipiter la fin par des décisions intempestives, inévitablement funestes. Le peuple juif ne pourrait ni prendre l'initiative de briser le joug des nations, ni décider de mettre un terme à l'exil, mais de supporter l'oppression et les vicissitudes de cette condition de précarité, à condition tout de même qu'elle ne soit pas trop cruelle, puisque un des serments, c'est de ne pas asservir Israël outre mesure. Dieu adjure justement à les nations de ne pas opprimer Israël outre mesure. Et tout au long des siècles de notre histoire, les maîtres de la tradition veillaient au respect scrupuleux de ces trois serments, afin de ne pas accélérer les temps de la fin, payant très souvent le prix fort, un prix démesuré, tout en continuant d'attendre la venue, comme on dit bimera bayamenu, de nos jours, et maintenant, d'une rédemption qui pourtant parle. Alors bien entendu, après la Shoah et la création de l'État d'Israël, il y a une autre lecture de ces trois serments, puisque le peuple juif a considéré qu'il a été opprimé par les nations outre mesure et à l'excès, et donc ces serments sont levés. Nous sommes donc renvoyés à l'attente, au temps. Si le temps est, comme nous l'avons montré, ce qui caractérise le messianisme juif en tant qu'engendrement de nouveauté, si les passages à un au-delà du temps qui interrompt le temps de l'histoire, eh bien cet au-delà du temps ne saurait être atteint, puisqu'il s'agit d'un ahari kayamim, d'un après les jours. Il reste donc, pour nous juifs et pour vous chrétiens, il reste donc à œuvrer dans le temps de l'histoire, c'est-à-dire à parfaire, c'est-à-dire à améliorer, comme si, c'est-à-dire à faire advenir la rédemption, comme si, dit Franz Rosenzweig, l'éternité elle-même dépendait de notre capacité à faire le saut, puisque le Messie doit venir aujourd'hui si l'on écoute sa voix. Mais comme chaque aujourd'hui ne vient pas, il tarde, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon aujourd'hui. Et donc on est renvoyé toujours à un autre aujourd'hui, à un autre aujourd'hui, à un autre aujourd'hui, sans cesse. Et donc on est condamné à recommencer l'histoire, encore et toujours, et à la réorienter. Et à la réorienter vers une époque de justice. C'est-à-dire une époque où la justice sera plus juste que la justice présente. C'est-à-dire une perpétuelle recherche d'un temps meilleur, justiciel, qui forme ultimement et foncièrement le contenu le plus propre du messianisme. Parce que le messianisme, c'est la fraternité, mais c'est aussi un temps de justice pour tous. Ce perpétuel recommencement, cette perpétuelle recherche pour faire advenir la rédemption aujourd'hui, aujourd'hui, Hayom, Intishvin Ubekolo, se trouve imbriqué dans le rapport éthique à autrui. Car pour Lévinas, être moi, c'est être Messie. Il faut comprendre cela comme être appelé à répondre à autrui, et à répondre d'autrui, c'est-à-dire être toujours sur la brèche, comme si l'éternité dépendait de cette responsabilité illimitée dont je ne peux me défaire en me dérobant et en la laissant sur le dos de quelqu'un d'autre. Être moi, c'est être Messie. Lévinas ajoutait être sous le poids du monde, c'est-à-dire porter le monde comme Atlas sur son dos. Et il disait, charge écrasante, mais inconfort divin. Ou pour le dire en termes de la tradition rabbinique, se tenir devant Dieu, le servir sans cesse jusqu'à son dernier souffle. Tel est, au-delà de l'espérance juive, le devoir du juif et partant de tout être humain. Voilà, je vous remercie.
Bien que je vous ai écouté hier, choses sans qu'il y ait à dire. Alors hier, c'était mieux, il y avait Philippe Barbarin, le cardinal, il y avait la nouvelle présidente de l'Amitié républicaine de France, la pasteur Florence Hommaille, je vous l'annonce. Et là, bien sûr, il y avait cette capacité.
Il avait cette capacité de rebondissement. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vous nous avez exprimé sur l'être. Alors, comme je ne veux pas du tout commencer par dire ce qui m'a touchée, je vais vous demander à vous ce qui vous a touché, ce qui a éveillé en vous quelque chose que vous puissiez exprimer et peut-être interroger. Jean-Albert.
Je vais aborder peut-être quelque chose de délicat, plus par rapport au temps messianique, hein, que sur la question du Messie. Vous avez tout à fait raison de faire cette différence entre l'attendu et l'attente. Si nous prenons ce temps historique, cette horreur de ce paradigme absolu du mal, la Shoah, ensuite cette réponse malgré tout, puisque l'Exodus, tous des milliers de juifs rescapés de la Shoah, des camps de la mort en Europe, internés dans des camps un peu partout dans l'Europe, et ensuite cette promesse d'Israël, cette création, puisqu'on peut tout de même, on est en train de fêter les 60 ans, la commémoration des 60 ans d'Israël, donc je pense que tout de même il est légitime d'en parler un peu dans les amitiés judéo-chrétiennes, donc j'ai cette pensée sur cette création qui a été difficile, ce premier État juif. Et ma question sera la suivante. En commémoration de ces 60 ans de la création de l'État d'Israël, par rapport à la Shoah, et ensuite l'avènement de cet État, est-ce qu'on peut... quelle lecture donner? Est-ce qu'on peut donner une lecture délicate ou difficile sur un début du temps messianique par rapport à la question, à la promesse, toutes les attentes et la promesse qu'a représenté tout de même Israël avec les différentes composantes du sionisme, parce qu'on sait très bien qu'il y a un sionisme laïque, on a un sionisme religieux. On sait qu'Israël continue à représenter des attentes très importantes. C'est au cœur même, aujourd'hui, de tous les penseurs, de tous les croyants juifs, l'avenir, le devenir d'une justice meilleure en Israël, comment Israël va évoluer, les enjeux d'Israël, même pour son identité juive, même pour toute la diaspora. Comment pourriez-vous nous répondre sur cette relation potentielle d'Israël et du temps messianique possible par rapport à un juste et un bel Israël?
Alors d'abord, juste une petite remarque concernant votre question, l'État d'Israël n'est pas le premier État juif, c'est le troisième État juif. Il y a eu justement les deux premiers, celui de Bar Korva dont je parlais tout à l'heure, c'était le second État juif. Donc c'est le troisième État juif. Alors, est-ce que les temps messianiques ont quelque chose à voir avec le sionisme et avec la création de l'État? Il y a deux grandes écoles de pensée. Une école qui lie et qui noue sionisme et messianisme, et une école qui sépare l'un et l'autre. Je commencerai peut-être par l'école qui noue le temps messianique et Israël. C'est l'école du sionisme religieux et c'est l'école du Rav Kook. Je parlais tout à l'heure justement de ces trois serments. Ces trois serments ont une histoire de leur réception depuis leur élaboration dans le Talmud jusqu'à nos jours. Comme je l'ai dit, jusqu'à la création de l'État, il y avait une attente et une attente quiétiste, c'est-à-dire une attente passive. À partir de l'affaire Dreyfus, à partir des pogroms en Russie, l'attente s'est transformée en attente active, parce que justement, et depuis, après la Shoah, parce que justement on pensait, ou on a pensé que, comme dit le Rav Kook, ce n'est plus nous qui nous précipitons la fin des temps, c'est les temps qui nous poussent vers cette précipitation. Et donc, ils ont établi un lien entre temps messianique et création de l'État d'Israël. Et pas seulement un lien après 48, parce qu'après 48, cette pensée n'était pas répandue. Elle s'est répandue après 67, avec ce qu'on appelle le groupe qui s'appelle le Gush Emunim, c'est-à-dire le bloc de la foi, qui poussé par les événements, libération de Jérusalem, conquête de la Cisjordanie, se sont mis justement à coloniser ces points et à dire que la Cisjordanie était terre d'Israël et qu'il fallait reconquérir cette terre. Et si vous connaissez l'hébreu, ils ont appelé la Cisjordanie, non pas la Cisjordanie, mais Judée, Samarie et Gaza. Mais en hébreu, c'est Yehuda, Shomron, Ve'aza. Et les initiales de Yehuda, Shomron, Ve'aza, c'est Yesha, ça veut dire libération, rédemption. Donc voilà. Il y a un lien qui a été établi entre temps messianique et création de l'État d'Israël et même histoire de l'État d'Israël. Mais moi, je résiste beaucoup à ce lien. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que justement, les autres penseurs qui disent qu'il faut séparer les deux s'appuient sur le fait que l'État d'Israël a été voulu par des hommes et des femmes qui se sont engagés et qui ont donné leur vie en faisant des efforts parfois même surhumains pour pouvoir faire d'un territoire qui était pauvre et qui était quasiment désert, eh bien, de faire un État moderne, un État qui du point de vue en tout cas économique, du point de vue technologique, du point de vue culturel et peut-être même démocratique, est un État des plus avancés dans cette région du monde et peut-être même dans le monde. Mais, il reste que cet État connaît un problème qui est le problème du peuple d'Israël lui-même, qui est le problème de l'identité de cet État. Et on ne peut pas dire justement que les temps messianiques sont venus en Israël parce que la question de l'identité, la question du peuple n'est pas résolue. Et aujourd'hui, s'il y a un danger qui guette le peuple d'Israël, c'est l'effritement de ce peuple. Parce que justement, il est traversé par des courants opposés, parce que justement, il est diffracté, parce que justement, il y a... Avant, on avait un dénominateur commun qui soudait tout ce peuple, jusqu'à il y a 200 ans. C'était la Torah. Et même le juif qui était le plus éloigné de la Torah était vu par les autres comme juif, parce que la définition du peuple juif jusqu'à l'émancipation, c'était un peuple de Torah. À partir de l'émancipation de 1791 en France et en Europe, 1810, etc., bien, ça s'est effrité. Les Juifs sont devenus citoyens et pour certains ont oublié leur identité juive. Et dans l'État d'Israël, il se passe aussi la même chose. Et c'est pourquoi notre grand chantier, c'est justement le chantier du peuple. C'est pas le chantier de l'État. L'État, moi, j'ai pas trop peur. L'État va perdurer. Mais c'est le peuple. C'est du peuple qu'il s'agit. Quand on entend que des nouveaux historiens israéliens parlent de post-sionisme et de post-judaïsme, comme il y a une post-modernité, eh bien, c'est difficile. Et alors, on ne peut pas lier à ce moment-là temps messianique et israélite. Voilà.
Est-ce que je peux me permettre d'ajouter peut-être quelque chose, mais c'est une question, là aussi, que je fais, de ce que dit Lévinas dans son rapport à l'autre, l'autre même avec un grand A, dans ce qui se passe et qui s'est toujours passé dans le monde juif, être la lumière des nations, c'est une demande, n'est-ce pas, de Dieu, œuvrer d'une certaine façon, prendre soin de l'autre. Que se passe-t-il, puisque là on est dans une actualité, je me permets de poser la question, avec le peuple palestinien qui est au... qui est autre, peut-être je peux me permettre de le dire, simplement de le demander, puisque vous le dites bien, être appelé à répondre de l'autre, être dans la responsabilité illimitée de l'autre, bien sûr, condition que l'autre aussi accepte cela, et ça c'est la grosse problématique. Mais pour que justement il y ait accession à ce messianisme et peut-être à l'arrivée du Messie, même si vous dites que le Messie n'est pas forcément un homme, qu'il est un temps, qu'il est moi, c'est-à-dire peut-être chacun de nous, chaque Israélien, puisque là on est dans l'idée d'Israël, quel colossal travail! Et que peut-on dire de cela? Que pouvez-vous nous dire?
Oui. Là aussi, grande question comme la question précédente. grande question et question très délicate. Il est vrai que le Palestinien, c'est l'autre. Et il est vrai que, selon Lévinas, en tant qu'autre, eh bien, on doit avoir souci de lui et on doit être responsable de sa situation, de ce qui lui arrive. Seulement, il faut bien comprendre que dans la philosophie de Lévinas, lorsqu'il dit à l'autre je dois tout, ça c'est si nous étions seulement deux au monde. Or, il y a un autre autre, c'est-à-dire il y a plusieurs autres. C'est ce que Lévinas appelle le tiers, qui forme une société, et au-delà d'une société, qui forme l'humanité entière. Là, je dois peser pour savoir qui a priorité. Est-ce que cet autre qui est mon prochain, ou qui est de mon peuple, ou qui est de ma famille, ou bien cet autre, l'autre autre qui est loin, qui est mon lointain. Alors là, je dois peser, comparer, je dois entrer, quitter le terrain de l'éthique pour entrer dans le terrain politique. Alors dans le terrain politique, il faut bien comprendre que aujourd'hui, la majeure partie du peuple d'Israël est pour un État palestinien. Seulement, on peut être pour un État palestinien et se prémunir contre les dangers qui pourraient arriver de cet État-là. Et c'est ce que fait justement, ou c'est ce que tente de faire tous les gouvernements israéliens, de droite ou de gauche. C'est ce qu'ils appellent la sécurité d'Israël. Et c'est normal. Les gouvernants doivent prévenir et doivent justement offrir à leurs citoyens une sécurité. Alors, certains pensent que la sécurité, c'est le mur. D'autres pensent que la sécurité, c'est l'État. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que la réflexion et le cheminement qui se passe en Israël et chez les Juifs, je ne vois pas la réciprocité dans le peuple palestinien. Chaque fois qu'il y a un pas en avant qui est fait par les Israéliens, il y a une radicalisation de l'autre côté. Et le fait que le peuple palestinien soit divisé aujourd'hui entre Hamas et Fatah, bien montre que la révolution des mœurs n'a pas encore été faite chez les Palestiniens et la reconnaissance de l'autre, qui doit venir aussi de leur part, n'a pas encore été faite. Et c'est pourquoi le conflit est un conflit qui, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de solution.
Bien sûr, c'était la pensée messianique hein, qui était derrière ma question, et c'était non pas parler de politique, mais il y avait à comprendre, et votre avis était important.
Je n'ai pas parlé non plus de politique, j'ai essayé de comprendre ça du point de vue de ce qu'on appelle la science politique, c'est-à-dire du point de vue de ce qu'on appelle l'organisation de la cité, oui. La manière de vivre ensemble, et la manière de vivre en paix.
Oui.
Et dans tout ça, le statut de Jérusalem.
Oui.
Divisé en deux.
Oui, le statut de Jérusalem divisé en deux. Oui. Vous avez raison. Mais vous savez que, au moment de la décision du partage, au moment où la Société des Nations d'abord et l'ONU ensuite ont décidé de partager Cette région du monde qu'on appelait la Palestine, en un État juif et un État arabe, la France notamment, et le Vatican aussi, avaient proposé d'internationaliser Jérusalem. Mais je crois que c'est une erreur, parce que Jérusalem est une des villes qui est évoquée dans la Bible, qui est évoquée dans la Bible en étant la capitale du royaume de Juda, capitale justement instituée par David, par le roi David. Donc je ne vois pas pourquoi le Vatican ou la France prônerait que Jérusalem soit internationalisée ou bien divisée. Mais je crois que malgré tout, il y a certains Israéliens qui sont prêts pour la paix à diviser, c'est-à-dire non pas diviser, mais à partager cette capitale en une partie capitale d'Israël et l'autre partie capitale d'un État palestinien qui se créerait. Et si vous permettez, je vais vous dire ce qui se passe, je reviens au temps, et je vais vous dire ce qui se passe dans notre calendrier juif maintenant. Vous savez qu'on vient de célébrer la fête de Pessah, et puis cette fête est séparée par une période qu'on appelle la période du Homer, d'une autre fête qu'on appelle Shavuot, et qui correspond à Pentecôte parce qu'elle survient, ou bien elle est intégrée dans le calendrier 50 jours après Pessah. Tout au long de notre histoire, cette période qui sépare Pessah de Shavuot était considérée comme une période de deuil. Et c'est pourquoi les Juifs portent la barbe hirsute, d'accord ? Et ce deuil était interrompu le 33e jour de ce compute. Or, depuis la création de l'État d'Israël, il y a des bouleversements dans cette période-là. Je vais essayer de vous les expliquer, ces bouleversements. Dans ces 50 jours, il y a deux jours qui sont un jour de commémoration de la Shoah et un jour de commémoration de tous les soldats qui sont morts dans les différentes guerres qu'Israël a entrepris ou a fait pour se défendre. Donc deux jours de deuil, deux jours où le peuple juif a expérimenté presque son éradication avec la Shoah et avec les guerres d'Israël. Mais deux jours d'espérance aussi, puisqu'on célèbre le jour d'indépendance et le jour de la libération de Jérusalem. Je ne sais pas si vous mesurez les bouleversements qu'il y a dans ce calendrier liturgique. Et dans cette période-là, c'est-à-dire la période qui sépare Pessah de Shavuot, la période qui sépare la libération d'Égypte, de l'esclavage égyptien, et du don de la Torah, c'est-à-dire que nous sommes en train d'aller dans notre histoire, vers ce don de la Torah, mais nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte, d'un nouveau Shavuot, puisque la Torah, aujourd'hui, n'est pas acceptée par l'ensemble du peuple d'Israël. Et je reviens à la question de l'identité.
Merci d'abord beaucoup pour votre exposé qui était très clair et très riche. Alors moi, j'aimerais revenir à des questions purement théologiques, mm-hmm. des formations professionnelles. Dans votre introduction, j'ai été très, très intéressée, je me sentais très proche de tout ce que j'entendais quand vous parliez d'Elvire. Hein. Finalement, on n'est jamais arrivé, toujours en marche, à la fois dans le monde et hors du monde. C'est tout à fait ce que nous, également, en tant que chrétiens, la façon dont on peut aussi se positionner. Et puis, vous avez parlé de la différence entre l'attente de l'espérance juive et l'attente de l'espérance chrétienne. Il y a peut-être cette notion de liberté qui peut, en il semble, un petit peu entrer en jeu. Vous avez aussi parlé de récompense de notre attente. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous fait toujours, qui résonne très fort pour nous, puisque pour nous, la récompense nous a été donnée déjà. Hein. Donc, du coup, on attend, mais on attend déjà récompensé. Comme vous attendez la récompense. Il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se jouer. Vous avez aussi parlé du déjà là, pas encore. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très fort aussi dans notre théologie. Vous avez parlé du royaume, mais pour nous, le royaume, il est déjà là, mais il n'est pas encore là. On est aussi dans cette dialectique. Et finalement, la vie de chrétien, elle est dans le paradoxe. Hein, on dit qu'on est à la fois pécheur, mais à la fois pardonné, sans trêve. On est tout le temps on avance dans ce paradoxe-là. Et puis, en vous écoutant à la fin de votre exposé, finalement, j'aime beaucoup à penser que Dieu a un grand sens de l'humour. Et je me disais que finalement, le christianisme avait peut-être été né pour contenter les juifs les impatients. Puisque vous avez parlé de cette attente interminable. Et que du coup, il fallait beaucoup de patience. Hein? Alors, je me disais, peut-être Dieu avait envoyé son fils, non pas tant comme Messie, puisqu'effectivement, d'ailleurs, il ne se revendique pas du même en tant que tel, mais bien plus pour calmer les plus impatients de son peuple, qui deviendront les chrétiens que nous sommes.
Alors, écoutez, vous avez raison de dire que... le christianisme aussi se situe dans cette dialectique de l'attente, du déjà et du pas encore. Nous mettons l'accent sur le pas encore. Vous êtes dans le déjà et dans le pas encore. C'est ce que je voulais montrer. Maintenant, lorsque le Talmud dit que si on attend, c'est qu'on attend le salaire de la récompense, c'est vrai qu'il y a une question, en tout cas, de rétribution, mais je crois que tout le texte talmudique que j'ai cité, je l'ai cité parce que il insistait énormément sur cette attente. Parce que, si vous voulez, le messianisme, si je devais définir d'une formule lapidaire le messianisme juif, je le définirais comme le temps. Le messianisme juif, c'est le temps. Pourquoi ? Parce que justement, le temps, c'est l'avenir. Et le temps et l'avenir, c'est l'imprévisibilité. C'est la surprise. C'est l'absolument nouveau. Et alors, c'est cette nouveauté qui est la récompense. Ou cette conscience que le temps est fécond. C'est ça qui est récompensé. C'est pas un salaire qu'on nous donne, c'est le fait de comprendre que le temps lui-même est fécond, l'avenir est fécond, et n'est pas justement le lieu de la dégradation, de la dégénérescence. Maintenant, c'est très probablement ce que vous avez dit à la fin, et ce n'est pas un humour de Dieu, mais c'est très, très juste. Il y avait au temps de Jésus énormément de courants eschatologiques qui traversaient la société juive. Et il y avait énormément de juifs impatients, comme il y en a eu à la suite de l'expulsion des juifs d'Espagne. Et très probablement, si on a dit de Jésus qu'il était Christ, qu'il était Messie, eh bien c'était des juifs impatients qui l'ont dit. Et c'est pourquoi pour nous, il ne l'est pas. Parce que nous, on essaye encore d'être patients.
Je ne comprends pas ce que c'est l'inverse. C'est parce que justement, vous ne répondez pas à la question qui est la question de la
réponse. Excuse, je n'ai pas très bien compris. Je crois justement qu'il a été nié comme Messie par ceux qui étaient impatients. Si. Et c'est pour ça que c'était une toute petite minorité. Et ensuite,
non.
On est rentré dans un temps eschatologique qui répond tout à fait à ce dont vous avez parlé à propos du messianisme juif.
Non, Jésus n'a pas été nié comme Messie par une minorité. Par la majorité juive qui, elle, ne reconnaissait pas. Donc
parce
elle n'était pas
patiente.
Non, au contraire, parce qu'elle était patiente.
Non.
parce que si.
Parce que la majorité voulait justement être libérée des Romains.
Des Romains, mais même avec Bar Kokhba. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Bar Kokhba, mais j'en ai parlé un peu. Bar Kokhba a été. Pourquoi nous sommes en deuil dans cette période qui sépare Pessah de Shavuot? Parce que, dit le Talmud, Bar Kokhba, Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves et qui sont morts, d'après le Talmud, tous dans cette période qu'on appelle la période du Homer, d'une épidémie. Et le Talmud donne la raison. La raison, c'est qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ça, c'est ce qui est écrit dans le traité Yevamot. Mais du point de vue historique, nous savons que Rabbi Akiva a soutenu Bar Kokhba comme chef de la révolte contre les Romains, et cette révolte qui a duré 3 années, est une révolte qui a été matée à Bethar, c'est une petite ville qui est à côté de Jérusalem, par Adrien, l'empereur romain, et cet empereur romain, une fois qu'il a tué Bar Kokhba et ses soldats, a rasé Jérusalem, a interdit aux Juifs de mettre les pieds à Jérusalem qui était rasée, en a fait une ville païenne, en changeant son nom, puisqu'il l'a appelé Colonia Aelia Capitolina. C'est-à-dire qu'il a voulu éradiquer complètement l'histoire du peuple d'Israël et le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi les sages de Rabbi collègues de Rabbi Akiva n'ont pas reconnu Bar Kokhba comme le Messie. Parce que justement, la fin de Bar Kokhba a été le fait que Jérusalem a été rasée. Alors bien entendu, on raconte une très belle légende, c'est-à-dire une Agada dans le Talmud, où Rabbi Akiva et ses sages ont bravé quand même l'interdit romains et ont été voir Jérusalem, l'emplacement du temple qui a été détruit, et les sages de Rabbi Akiva ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil et se mettaient à pleurer parce qu'ils ont vu des renards circuler dans l'endroit du temple et le temple complètement détruit. Et Rabbi Akiva riait. Alors les sages lui ont demandé, mais Akiva, explique-nous, pourquoi tu ris alors que tu vois bien que le temple, le lieu de la présence divine, est détruit complètement. Et il dit, je ris parce que dans la prophétie, on annonce la destruction du temple, mais on annonce aussi la rédemption et sa reconstruction. Et si la première partie de la prophétie s'est réalisée, il n'y a aucun doute que la seconde partie aussi se réalisera, et c'est pourquoi je dis. Donc, vous voyez que on n'a pas reconnu Bar Kokhba comme Messie, mais il reste cette attente que, de toute façon, la rédemption va venir. De toute façon, le temple sera reconstruit, ou bien l'État sera élevé de nouveau.
Mais c'est exactement ce qu'a dit Christ. Je ne vois pas la comparaison avec Bar Kokhba. Ça n'a rien à voir. C'est une toute autre démarche. Le Christ, finalement, a incarné tout ce que vous avez dit à propos du pain.
Oui, mais il l'a incarné, mais il l'a incarné pas au sein du peuple juif. Il l'a incarné
en se tournant
vers les Grecs. Vous savez très bien qu'il y a eu deux églises à un moment donné. Il y a une église selon la circoncision, qui est celle de Jacques. Mais ça veut dire qu'il y a eu le frère de Jésus qui a essayé de fonder une église ou une chrétienté qui ait ses racines et ses sources dans le judaïsme. Et il n'a pas été suivi, puisque justement, cette église a disparu totalement. Et Paul s'est tourné justement vers les païens. Et alors, nous, bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'entête encore à attendre.
Comme les chrétiens.
Oui, les chrétiens attendent le retour. Attendent le retour. Non, ils attendent le retour de celui qui est déjà Christ et qui est déjà Messie.
C'est par nous, d'ailleurs, le retour n'est pas par nous. On n'est pas dans la magie.
Oui, bien entendu, bien entendu.
Oui, moi je voulais retenir ces deux mots, l'attente et l'espérance. Parce que dans le fond, ça résume tout pour vous comme pour nous en tant que chrétiens. Et je crois que le messianisme a commencé dès la création. Parce que dès l'instant que l'homme a été créé et qu'il a désobéi à Dieu, il a fallu, Dieu a prévu un Messie pour restaurer cette relation qui a été interrompue à cause du péché.
Et c'est c'est pas à cause du péché qu'il
y a eu la désobéissance. La désobéissance de l'homme.
Non, même pas à cause de la désobéissance. Dès la création. Dès la créature. Parce que être créé, c'est avoir un créateur.
Oui.
Mais être créé, c'est être séparé du créateur. Cette séparation, d'accord, crée un mal-être chez la créature et elle aspire à quoi ? À rejoindre le créateur.
Voilà. Alors, donc, de rejoindre le créateur, Dieu a prévu quelqu'un qui le fasse. Enfin, après, toutes les prophéties, parce qu'on parlait de prophéties, ont été accomplies. Donc Dieu a mis à part le peuple juif, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans ce peuple-là mis à part, particulièrement, ce Messie devait venir. Donc toutes les prophéties ont annoncé comment il allait venir, et ces prophéties se sont réalisées en la personne de Jésus, pour ceux qui le croient, bien sûr. Alors, donc, la mort de Jésus, sa résurrection, son ascension, et il annonce qu'il revient. Et donc, ceux qui verront Jésus revenir, les Juifs le reconnaîtront comme le Messie qu'ils attendent, et les chrétiens l'attendent comme celui qui leur a dit qu'il allait revenir les prendre. Et un signe particulier dans le temps messianique dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est justement le retour du peuple juif. C'est un signe majeur. Voilà, que le temps avance.
Oui, mais je crains de vous décevoir parce que.
Mais il n'y a plus de problème.
Mais dans la courtoisie, je crains de vous décevoir en disant que. En tant que juif, et beaucoup d'autres juifs le font aussi, nous n'acceptons pas ou nous résistons beaucoup à cette dialectique de la théologie chrétienne qui pense que l'Ancien Testament annonce quelque chose qui est accompli dans le Nouveau et l'accomplissement qu'il y a dans le Nouveau a pour corollaire la substitution du Nouvel Israël à l'Ancien Israël. Sur ce plan-là, le Juif résiste beaucoup, parce que, tout à l'heure, Madame, vous avez dit, Dieu a envoyé son Fils, mais pour nous, le Fils de Dieu, béni, Bechori Israël, Dieu dit que mon fils aîné est Israël, le peuple d'Israël, c'est dans Exode. D'accord ? Donc c'est pas le fils de Dieu, c'est nous avons une relation filiale avec Dieu, et cette relation filiale, eh bien c'est comme toutes les relations filiales, on ne peut pas la défaire. On peut défaire une relation entre époux et épouse, mais pas entre père et fils ou entre père et fille. Oui, mais pas à notre place. Mais bien entendu, mais vous savez très bien qu'il y a cette notion de substitution dans la théologie chrétienne. Bien. Alors là, je suis très heureux de vous l'entendre dire.
Patience ou impatience.
C'est pas un Messie accompli. Le Christ est un chemin. Et quand vous dites que la venue du Christ est un accomplissement que vous refusez, mais à moins que les contraires de l'humanité. Ce n'est pas une question de la vision du Christ. Le Christ correspond exactement à ce que vous avez dit. Et ce n'est pas un accomplissement à devenir. Et nous sommes le corps du Christ à partir de ce moment-là, au même titre que vous.
Et son retour, son accomplissement se fera à travers le temps.
Tel que vous l'avez défini. Et je crois être en bonne théologie.
J'ai traité en disant ça.
Alors attendez, puisque vous croyez être en bonne théologie chrétienne en disant cela, attendez. Voilà, je préfère cette remarque que vous avez faite à la fin. Parce que quand vous dites en bonne théologie chrétienne, moi, il m'est venu à l'esprit un texte du Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, où justement Paul dit qu'il faut tailler cet arbre avec les branches mortes. Et les branches mortes, ce serait nous.
Non.
Ah oui, je peux vous...
Dans le contexte de l'époque, bien sûr, mais c'est plus du tout à la vision de l'Église.
Voilà, donc, alors nous sommes tout à fait d'accord, mais il faut qu'il y ait une révolution, comme dit Madame, à l'intérieur de l'Église, pour changer justement cette théologie d'annonce accomplissement, de substitution, etc. Parce que justement.
Ok. Ce que vous faites également, vous avez une
question.
Elle est justement dans le dialogue judéo-chrétien, mais grâce à notre traité, grâce à Vatican II, grâce à Jean-Paul II, grâce à Jean-23,
Et vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui des personnes dans l'Église qui veulent faire marche arrière, qui veulent revenir à avant Vatican II. Ce que vous exprimez me semble en tout cas très vrai, mais est-ce que c'est la position de l'Église officielle? C'est ça le problème. Oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais. Oui, mais vous avez entièrement raison. Une partie de l'Église a voulu réintroduire dans la liturgie du Vendredi Saint ce qui a été expurgé justement par Vatican II et par Jean XXIII, c'est-à-dire cette notion de juif perfide. Et il a dit que cette partie de l'Église a reçu en tout cas des instructions du pape Benoît XVI en disant vous pouvez peut-être revenir en arrière dans le dialogue judéo-chrétien, mais vous n'avez pas le droit de rétablir cette liturgie. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez, mais cette liturgie, vous n'avez pas le droit de la rétablir.
Comment j'intègre et j'apprends le temps du temps
Oui. Alors, comment intégrer le messianisme dans notre vie? Eh bien, c'est comme je l'ai dit en citant Lévinas, être moi, c'est être messie, c'est-à-dire être responsable d'autrui. Voilà. Merci beaucoup pour votre confiance, madame, en nous. Rassurez-vous, nous sommes comme un grumeau dans la pâte de l'histoire. C'est vrai, maintenant, concernant votre question, les questions simples sont les plus difficiles, madame. Est-ce qu'on se considère comme le peuple élu? Oui, on se considère comme le peuple élu. Mais il faut bien comprendre la signification du peuple élu. Peuple élu, ça ne veut pas dire peuple dominateur et sûr de lui-même, comme a dit un monsieur célèbre. Ce n'est pas un peuple qui est... domine les autres et qui est supérieur aux autres. Élu, l'élection n'est pas une élection de privilège. C'est une élection de responsabilité. C'est-à-dire que chaque être humain qui est responsable est élu. Et je crois que nous avons montré tout au long de notre histoire que nous étions responsables. Voilà.
En fait, si on n'entend pas la question, on ne comprend pas la réponse. Moi, je voudrais dire deux choses tout à fait différentes. La première, c'est que pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, et peut-être pour le professeur Banon, moi, je suis chrétien, tout du moins, je voudrais l'être, j'aspire à l'être, je suis protestant, mais je respecte profondément l'entêtement des juifs. Parce que pour moi, cet entêtement est foncièrement respectable. Et peut-être qu'il y a moins la notion, enfin le désir de substitution de Vérus Israël. Je voudrais encore le voir, ça. J'en suis pas si sûr que ça. Mais admettons. Mais en tout cas, il y a chez beaucoup de chrétiens, encore, l'attente de conversion de la part des juifs, ne serait-ce qu'à la fin des temps. Mais moi, je veux dire que je ne me situe pas du tout dans cette logique-là. parce que c'est pour moi, en tout cas si j'étais juif, je le vivrais profondément mal. Moi je suis chrétien, je n'attends pas du tout que les juifs se convertissent à aucun moment. Je suis profondément heureux d'être chrétien, je ne souhaite pas devenir juif, absolument pas. Mais en même temps, je ne souhaite pas du tout que les juifs se convertissent au christianisme. C'est justement parce qu'ils sont différents qu'ils m'enrichissent. Et si j'ai tellement de bonheur à les côtoyer, si j'ai suivi les cours du grand rabbin Gage pendant 4 ans, c'est parce que le judaïsme m'apporte énormément. Donc j'ai pas envie qu'ils se rallient à nous. J'ai pas envie de me rallier à eux non plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose tout à fait différente, eu égard aux points fondamentaux qui nous séparent, je pense qu'il ne faut pas le nier, juifs et chrétiens, quelles peuvent être, à votre avis, les perspectives d'une amitié judo-chrétienne? C'est d'actualité, puisque l'Assemblée générale de l'amitié judo-chrétienne de France, c'était ces jours-ci. L'Assemblée générale de notre propre amitié judo-chrétienne, ce sera dans 3 semaines, ou 4 semaines, je ne sais plus. Donc, quelle est, pour vous, la raison d'être de l'amitié judo-chrétienne, en dehors des rencontres amicales, conviviales, en dehors du plaisir d'étudier ensemble? Et s'il s'agit d'un, pour reprendre vos propres termes tout à l'heure, d'un chemin qui nous serait offert pour, comme vous nous l'avez dit, contribuer ensemble, non pas à chercher à se convertir, mais contribuer à parfaire la création et surtout à nous unir, à travailler ensemble, à cheminer ensemble pour faire régner la justice.
Merci, là aussi. Votre première remarque, je crois que je n'en dirai pas plus. Vous avez vous-même répondu à la question. Entêtement, mais pour les perspectives de l'amitié judéo-chrétienne, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis engagé, disons, dans ce dialogue. Du point de vue théologique, le chrétien a besoin du juif, parce que le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien, ou le Deuxième Testament s'appuie sur le Premier. Et donc, du point de vue théologique, le chrétien doit, en tout cas, demander aux juifs qu'il côtoie d'étudier avec lui certains textes de l'Ancien Testament. Le juif n'a pas besoin du chrétien du point de vue théologique. Je dis toujours à mes amis chrétiens qu'il y a un psaume qui est le psaume 23, que vous connaissez certainement. Dieu est mon berger, il ne me manque rien. Donc du point de vue théologique, je crois que l'histoire nous a appris que à un moment donné, il y a eu rupture, il y a eu fossé entre juifs et chrétiens. Mais du point de vue historique et du point de vue politique, nous avons besoin d'unir nos forces. Parce que là, il y a ou bien, justement, le travail de plus de justice, ou bien le fait de faire barrage et de faire barrage à la violence, qu'elle soit religieuse ou non, c'est-à-dire, puisque vous êtes protestant, d'essayer justement de faire entendre ce que moi j'ai appris dans un pays protestant qui est la Suisse, de faire entendre cette laïcité souple qui malheureusement ne se trouve pas en France, parce qu'en France c'est une laïcité de combat, une laïcité héritée de la Révolution française où on voulait bouffer du curé, d'accord? Et il faut essayer de faire passer ce message de la laïcité souple pour que juifs, chrétiens et musulmans puissent vivre dans un état, mais puissent vivre ensemble dans la concorde. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est justement de faire passer ce message-là, pas du point de vue théologique, mais du point de vue d'organisation de la cité. Et ce dialogue, nous devons, les deux, vous et nous, l'avoir avec les musulmans de ce pays.
Je ne suis pas un grand orateur, mais je voudrais quand même revenir sur quelques-unes des choses qui se sont dites ce soir. D'abord, le discours de M. le professeur. Alors, M. le professeur, qui par son aspect me trouble beaucoup, parce qu'il ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, à celui qui a été rabbin d'Annecy, il y a eu entre 30 et 45 ans en retraite aujourd'hui, et qui était un ami très cher pour moi. Mais ça, c'est en dehors de la question. La question, la première, c'est que ce soir, d'après les paroles de M. le professeur, j'en ai plus appris sur la signification du messianisme pour les juifs qu'au cours des trois quarts de siècle écoulés. Bon, ceci étant, il a expliqué de façon très éloquente qu'en fait le messianisme des juifs, c'est difficile à dire, ça s'écarte de tout aspect concret. C'est une attente, c'est un esprit qui n'a rien de concret pour le justifier ou pour en vérifier l'existence. C'est comme ça. Donc, on peut parler, si vous voulez, et on en parle d'ailleurs, du miracle d'Israël, mais on ne peut pas parler du messianisme. Alors, sur le miracle d'Israël, on peut en envisager beaucoup. On peut parler du sort des guerres, on peut parler de ce qu'Israël est aujourd'hui à partir de rien, mais on peut parler de quelque chose de beaucoup plus simple, où il se trouve que je suis un peu au courant. J'ai en effet voyagé en Israël, du nord au sud, du sud à l'est, en enquêtant un peu sur les territoires, de l'ouest à l'est, pardon, quelquefois tout seul, de jour et de nuit, quelquefois avec des amis ou des personnes que j'ai rencontrées, capables d'expliquer un peu le passé d'Israël. Et je peux vous dire que quand on se balade en Israël, dans les régions où on ne se balade pas, justement, dans les régions du nord, dans toutes les régions, il y en a partout où on ne se balade pas. D'abord, on s'aperçoit beaucoup plus de l'immensité de d'Israël que de sa petitesse. Et ensuite, quand on va au fond des choses et qu'on examine la nature, on peut s'apercevoir encore aujourd'hui, en regardant de l'œil qu'il faut, que tout est né à partir de rien. Je me suis même demandé plusieurs fois pourquoi Abraham a justement donné ce territoire-là aux Juifs. Parce que vraiment, ça se composait de sable, de marécages, de vermine en tout genre dans ces marécages, et de territoires rocailleux où dans le passé il y a eu des arbres, mais où l'occupation turque en particulier a tout rasé. Il y a eu un certain moment où il devait y avoir plus que des pierres. Aujourd'hui, c'est tout couvert d'herbes, de forêts, il n'y a plus de moustiques, il y a des fermes partout, et il y a une production agricole qui correspond, qui n'a rien à voir avec l'importance de la population ou de la surface. Donc, si vous voulez, on peut dire que c'est messianique, comme pas mal d'autres choses, mais on peut aussi dire que c'est un miracle, et on peut aussi dire que c'est comme ça et c'est tout. Donc ensuite, je voudrais revenir sur ce que Madame a dit au sujet du partage de Jérusalem. Je m'excuse s'ils sont trop longs qu'on m'arrête. au sujet du partage de Jérusalem. Alors là, je considère que monsieur le professeur a répondu à cette dame avant même qu'elle pose la question. Il y a répondu quand il a parlé du rapport avec l'autre. Je suis de ceux qui ne voient aucun inconvénient à ce qu'une partie de Jérusalem soit même gouvernée par les Palestiniens, à condition qu'ils respectent la définition du rapport avec l'autre que M. le professeur a donné tout à l'heure. Alors, je dis quand même qu'en fait, on n'en est pas si loin. Parce que moi, je suis très souvent à Jérusalem, je côtoie les musulmans, c'est assez difficile à constater s'il s'en est ou s'en est pas, notamment au niveau des chauffeurs de taxi, mais souvent s'en est, et je m'aperçois d'une chose que je me suis aperçu d'ailleurs à tout bout de champ, avant la première intifada. Avant la première intifada, il y avait une cohabitation entre les deux populations, un peu, je pense, comme celle qu'il y avait en Afrique du Nord. C'est-à-dire, par exemple, quand j'allais dans une usine pour discuter avec le patron, on ne pouvait pas discuter plus de 3 minutes de suite sans qu'un contremaître ou un ouvrier arabe interrompe tout pour poser une question au sujet des clés à molette ou une chose comme ça. C'était vraiment la coopération. Si on se balade dans la vallée de l'Arve par ici, c'est exactement la même chose. En plus, quand on allait dans un hôtel, et c'est encore comme ça aujourd'hui dans beaucoup de grands palaces, les garçons, les filles de salle, etc., sont presque toujours des juifs. Les maîtres d'hôtel, qui connaissent le métier, sont des arabes. Et personne n'en prend ombrage. Ensuite, je voulais faire un commentaire sur ce qu'a dit monsieur le dernier orateur avant moi, qui a dit des choses vraiment très profondes. Et j'ai déjà souvent eu l'occasion de l'entendre et je le félicite pour ce qu'il a dit. Voilà, merci.
Moi, bien modestement, je veux tout d'abord revenir un petit peu sur la question qui a été posée par madame et qui parle du peuple élu. Je vais rappeler un souvenir émouvant pour moi. Je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'amitié judéo-chrétienne, il y a déjà pas mal de temps, j'avais interrogé un ami qui n'était autre que le fils du grand rabbin de Beaune, rabbin Nahouri, et avec mon mari, nous des deux visions chez eux, et je demandais, nous parlions du peuple élu. Et il s'est presque gentiment fâché, si l'on peut dire, en me disant, mais nous ne sommes pas le peuple élu. Nous sommes tout simplement le peuple guide, le peuple phare, celui qui doit ouvrir la voie et celui qui est chargé de lourdes responsabilités. Et à ce titre-là, je ne doute pas que nous risquons d'être comment dire, jusqu'à la fin des temps, d'être vilipendés jusqu'à la fin des temps pour cette raison-là. J'avais trouvé ça très, très, très grave et très remarquable de sa part. Il y avait beaucoup d'humilité, d'ailleurs, dans sa réponse. Alors, nous avions convenu que là où nous étions, nous avions tous une tâche à exécuter, quelle qu'elle soit, fleurir là où nous sommes, comme nous le pouvons, et surtout travailler ensemble, dans le sens de l'amitié judéo-chrétienne, dans la même voie de la concorde, de la recherche de la vérité, de la justice, et surtout dans la voie de l'espérance. Ne jamais laisser tomber cette petite lueur espérance qui est au fond de nous et qui quelquefois se réveille à l'occasion d'événements ou de choses inattendues, lui faire confiance, attendre, comme vous le dites, mais toujours attendre dans la sérénité, je crois. Et puis je veux remercier monsieur le professeur Bannon de son entretien de ce soir qui a été dense et très riche et qui nous incite à réflexion, et puis lui redire tout le bon souvenir que nous avons gardé de son oncle qui fut un très grand ami et de toute la famille qui est encore ici sur place.
Je voudrais juste remercier M. Moss et Mme. M. Moss, oui. Mme Brousse, oui, Mme Brousse. Oui, c'est vrai, je ne vais pas venir à Annecy sans me rappeler de mon oncle. Oui,
La seule chose que je voudrais dire à Monsieur Mauss, c'est effectivement, je crois que vous avez bien résumé et compris ce que j'ai dit au sujet du messianisme. Vous avez dit rien de concret, et je veux dire comment Maïmonide, dans les règles des rois et de leur guerre, parle du Messie dans les derniers chapitres, les chapitres 11 et 12 du Mishneh Torah, du code de loi de Maïmonide. Il dit que on ne doit pas s'occuper des enseignements, des légendes qui parlent des temps messianiques parce que personne ne sait comment cela va se passer. Mais on doit continuer à s'occuper de l'amour et de la crainte de Dieu. Voilà.
Peut-être pour mieux entendre. En tout cas, merci à nouveau, professeur Bannon. Et vraiment, j'espère qu'on aura encore plaisir de vous voir. Et merci aussi à vous tous. Alors, la soirée, vous savez, elle n'est pas tout à fait finie. Il y a d'abord la petite boîte qui vont passer. Toujours.